Eh bien, je vais être très rapide. D'abord, je voudrais saluer eh bien, tous les participants que je n'ai pas pu saluer individuellement à cause des petits problèmes techniques que nous avons eus. Je suis évidemment très heureux également de voir cette journée d'études eh bien, débuter enfin, malgré cette situation et ces nombreux mois de préparation. Donc, je vais aller relativement vite dans cette présentation. Cette journée d'études, comme l'a bien dit Didier, entend étudier le rôle politique du corps en contexte colonial et postcolonial sur plusieurs continents. Plus précisément, nous aimerions nous intéresser à ce qu'on peut appeler les performances corporelles de dignité des populations minoritaires dans différents contextes sociaux qui, comme l'a rappelé Didier, sont marquées par de profondes et souvent très violentes hiérarchies raciales. Donc, ces performances corporelles de dignité relèvent de pratiques multiples de présentation de soi dans l'espace public, mais également dans l'espace privé, comme le langage, l'habillement, la cosmétique et toutes les techniques du corps, comme les appelait Marcel Mauss, allant de la posture à la danse, au sport, etc. Donc, je pense en particulier aux célèbres analyses de Sealer James sur le cricket dans les Caraïbes anglophones, qui est pour nous aujourd'hui, je pense aussi, un sujet de réflexion. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que le corps, ces dernières décennies, est devenu un objet d'étude central des multiples champs de recherche qui s'intéressent aux sociétés coloniales et postcoloniales. Et le renouvellement de la recherche sur ces questions a notamment été salué, par exemple, en 2014, lorsque le jury du concours de l'agrégation d'histoire a proposé aux candidates et aux candidats de plancher sur le sujet de dissertation suivant, le corps en situation coloniale au pluriel. Cette centralité du corps, mais aussi, enfin, cette centralité du corps pour l'histoire, mais également pour la sociologie, pour l'ethnologie des sociétés coloniales et postcoloniales, s'explique par le fait que le corps a constitué la cible première des processus de gouvernement des populations colonisées. Cible première, me semble-t-il, à entendre au sens de cible visée d'abord et avant tout autre. C'est ce que montre, par exemple, comme l'a rappelé Didier, eh bien, l'historienne Anne-Laura Stoller dans son livre La chair de l'Empire, où elle explore précisément cette police de l'intimité qui permet d'asseoir la domination coloniale sur les sujets colonisés. Mais, et c'est là ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui, le corps colonisé, le corps racisé ne fut pas simplement une cible de l'oppression du pouvoir colonial. Et c'est sur ce point que nous travaillerons plus précisément aujourd'hui. Parce qu'en effet, le corps fut également le lieu et l'enjeu de lutte de libération pour les populations colonisées. Et autrement dit, si le corps a constitué la cible première des processus de gouvernement des populations colonisées, il a également constitué le support premier de leur lutte de libération. Support premier, là encore, à entendre comme support privilégié, utilisé d'abord et avant tout autre. Ces phénomènes d'oppression des corps et de libération des corps, qui sont des phénomènes liés entre eux dans une relation nécessaire, n'ont pas pris fin avec les mouvements de décolonisation et l'effondrement des empires coloniaux à la fin, au milieu et à la fin du XXe siècle. La domination des corps postcoloniaux persiste aujourd'hui sous d'autres formes, aussi bien dans les territoires anciennement colonisés que dans les territoires anciennement colonisateurs, précisément là où des populations autrefois colonisées se sont désormais installées. Ainsi, en contexte postcolonial, pour de nombreuses populations stigmatisées, le corps demeure un support primordial des luttes pour la dignité, l'égalité et les droits. Donc, que ce soit dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, dans l'océan Indien aussi, les mouvements de libération individuelle et collective menés par les populations coloniales ou postcoloniales se sont explicitement appuyés, selon des modalités diverses, sur le corps conçu comme support de dignité et aussi, donc, comme support de citoyenneté et d'humanité. Par exemple, les manifestations massives contre les violences policières aux États-Unis, en France également, et évidemment aussi ailleurs dans le monde, qui sont donc des violences qui visent d'abord des corps minoritaires, eh bien ces manifestations affirment collectivement la dignité des corps noirs et donc la dignité de leur vie, selon le mot d'ordre rappelé par Jean-Pierre d'Ozon, Black Lives Matter. Donc finalement, et j'en terminerai là, nous nous proposons aujourd'hui d'étudier les performances corporelles de dignité à la fois dans la longue durée et dans leur dimension internationale, tout en mettant l'accent sur des lieux et des pratiques souvent très ordinaires, qui pour cette raison ne sont pas spontanément pensées comme politiques. Voilà, donc ça c'est une tentative de cadrage des discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui. Et qui est évidemment un cadrage qu'on pourra discuter. Il n'a d'intérêt que pour inciter évidemment au débat.
Alors, on va démarrer en fait par deux interventions. Donc, la première sera de Nicolas, justement, qui va reprendre la parole très rapidement. Et la deuxième sera d'Aurélien Michel. Alors, je vais présenter rapidement Nicolas avant qu'il intervienne. Donc, Nicolas Martin Brotteau est historien des États-Unis, maître de conférences à l'Université de Lille et membre du laboratoire Cécile. Ses recherches portent sur l'histoire africaine-américaine, l'histoire du racisme et de l'antiracisme. Il a traduit et édité un ouvrage célèbre, mais pas traduit en français, de Webb Du Bois, Les Noirs de Philadelphie, et cette traduction est parue aux éditions de La Découverte l'année dernière. Et il a fait paraître sa thèse cette année aux éditions de l'EHESS, et sa thèse est intitulée Corps politique. Le sport dans les luttes des Noirs américains pour la justice depuis la fin du 19e siècle. Donc, je te passe immédiatement la parole, dont tu as à peu près une demi-heure.
Oui.
Ensuite, Aurélia Michel interviendra sur le Brésil. Je la présenterai tout à l'heure. Et à l'issue de ces deux interventions, donc dans à peu près une heure, nous aurons une discussion avec Christine Chivalon et Sarah Fila Bacabadio. Voilà. Je te laisse la parole, Nicolas.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un des enjeux de mon travail consacré à l'histoire africaine-américaine, donc comme vous le savez, c'est-à-dire l'histoire des Noirs aux États-Unis. Ma communication tentera de poursuivre la réflexion que j'ai entamée dans mon livre dont a parlé Didier il y a un instant, Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle. Dans ce livre, j'ai essayé de comprendre la signification de l'image que j'espère vous voyez à l'écran. Voilà un cours de gymnastique dans la YMCA noire de Washington DC où vous avez de jeunes garçons noirs sous l'autorité d'un professeur de gymnastique qui font des exercices d'étirement. Et j'ai essayé de comprendre la signification de cette image qui, pour de jeunes garçons noirs, est tout à fait différente de la signification qu'elle peut prendre pour, par exemple, leurs jeunes homologues blancs dans la même ville. L'objectif de ce livre était de comprendre en quoi le corps a historiquement constitué le support premier des luttes de libération des personnes noires aux États-Unis, en étudiant une modalité spécifique et puissante de l'usage politique du corps, le sport. Donc la raison essentielle, à mon avis, du rôle politique du corps dans les luttes de libération africaine-américaine réside dans le fait que le corps a été et reste encore aujourd'hui la cible première de l'oppression raciale des personnes qui sont identifiées comme noires. De sorte que la lutte contre cette oppression est passée et passe encore, comme nous le voyons actuellement, par ce que j'appelle des performances corporelles de dignité. Donc, c'est ce que disait notamment le grand leader noir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, Booker T. Washington, que vous voyez ici à l'écran. Dans les années 1890, Booker T. Washington déclarait à ses étudiants du Tuskegee Institute, donc une sorte d'université noire qu'il avait créée dans l'Alabama, il leur disait, et cette citation est dans le texte que vous voyez à l'écran, nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole. Je répète, nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole. Cette déclaration est une déclaration qui me semble à la fois lucide et terrible. Elle est lucide parce qu'elle prend acte de la situation des Africains-Américains à la fin du 19e siècle, et elle est terrible parce qu'elle dit que la parole des Noirs est incapable, eh bien, de se faire entendre par les Blancs. Donc c'est une déclaration qui m'a beaucoup frappé et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie comme titre de mon intervention aujourd'hui. En disant ce qu'il dit, nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole, Washington appelle les Noirs aux États-Unis à utiliser des performances de dignité pour éradiquer les préjugés raciaux anti-noirs qui dominent alors la société états-unienne. Autrement dit, il invite sa communauté à utiliser plutôt que la parole des performances. Plutôt que le dire, il leur propose d'utiliser le faire, comme nous le verrons dans un moment. Donc, cette phrase soulève de multiples enjeux qui sont aussi bien historiques que philosophiques, et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui réfléchir avec vous à l'un de ces enjeux, les rapports entre corps et parole dans les luttes de que je voudrais faire, c'est eh bien de lire cette citation de Booker T. Washington. Donc j'ai mis entre crochets le début de la phrase pour bien la comprendre. Tant que nous n'incarnerons pas les normes dominantes de respectabilité, donc ce sont des normes qui sont évidemment essentiellement blanches, nous ne serons pas capables de repousser par la discussion ou de repousser par l'argumentation ce préjugé, donc le préjugé anti-noir. Nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole. Nous devons y aboutir par le produit du travail, de la pensée. Et vous verrez qu'à mesure que nous le ferons, nous obtiendrons ce que nous méritons. Donc, une génération après l'abolition de l'esclavage, hein, puisque cette phrase date de 1890, et l'abolition de l'esclavage, c'est 1865 aux États-Unis, eh bien, une génération après l'abolition de l'esclavage, environ, Booker T. Washington prend acte de ce que la parole publique des Africains-Américains est impuissante à convaincre l'immense majorité des Blancs de leur dignité, de leur égalité et donc également de leur citoyenneté. Donc, on a par exemple cette image qui rend bien compte du climat politique et social de l'époque, où vous avez une véritable épidémie de violence raciale par les suprémacistes blancs qui imposent donc à la communauté noire un statut social et racial infériorisé dans la société américaine, bien que l'esclavage ait été aboli. Cette situation de violence raciale est tout à fait prégnante et importante ici. Au moment où Washington déclare que les Noirs ne peuvent se frayer un chemin vers leurs droits par la parole, les États-Unis, et en particulier les États du Sud des États-Unis, les anciens États esclavagistes, en particulier l'Alabama, où travaille Booker T. Washington, sont traversés par une violente contre-révolution raciste. Les suprémacistes blancs, depuis l'échelon local jusqu'à l'échelon national, sont parvenus à restaurer la hiérarchie raciale héritée de l'esclavage, et ceci par la violence terroriste armée. Donc on a cette situation, si vous voulez, avec cette caricature très célèbre de ce qui se passe donc au moment où vous avez cette contre-révolution raciale qui succède à la révolution raciale qui a été la guerre de sécession. Vous avez l'alliance des États du Sud, les anciens planteurs qui sont au centre avec cette inscription sur la ceinture du personnage, hein, Confederate States of America, donc les États confédérés du Sud. Vous avez le capital à droite. Et puis vous avez la plèbe blanche à gauche. Souvent ici, c'est une représentation raciste en fait des Irlandais, mais qui écrase hein, le corps noir et qui prend rétrospectivement avec les affaires de violence policière, l'affaire George Floyd, une dimension tout à fait frappante. Donc concrètement, dans les années 1890, au moment où parle Booker T. Washington, les gains politiques, économiques et sociaux acquis par les Noirs grâce à leur engagement dans la guerre de sécession ont largement été détruits. Ces évolutions excluent violemment les personnes noires de l'espace de la citoyenneté américaine. Elles sont rejetées hors de l'espace légitime de la conversation, entre guillemets, de la discussion, de la délibération, de l'argumentation politique. Et c'est ce que dit Washington. Il prend acte de la quasi-impossibilité pour les Africains-Américains de se faire entendre par la parole pour obtenir justice. Washington est parfaitement conscient de cette situation, au sens propre, qui est une situation catastrophique. Puisque la catastrophe, c'est le retournement. À l'espoir né de l'abolition de l'esclavage, succède en fait une catastrophe, c'est-à-dire une situation dans laquelle les Noirs ont perdu, se sont fait en réalité voler les droits et la justice à laquelle ils aspiraient. La parole noire est donc ignorée par les Blancs, inaudible pour eux, et cette parole est, comme le dit Hannah Arendt à propos de la parole des Juifs d'Europe dans les années 1930, la parole noire à cette époque est hors de propos. C'est une belle formulation d'Hannah Arendt, qui est un jeu de mots, et qui essaye de dire voilà, que pour certains groupes sociaux, dans certains contextes, eh bien, la parole, notamment la parole publique, est hors de propos. Donc cette situation d'inaudibilité de la parole noire par les blancs et par les blanches, et plus généralement cette situation d'inefficacité de la parole noire s'explique par la racialisation du corps noir. Il faut souligner ce point qui est apparemment évident, mais qui est souvent sous-estimé néanmoins par les historiens et les historiennes, c'est-à-dire la caractéristique corporelle de la haine raciale subie par les Africains-Américains et les Africaines-Américaines, qui précisément repoussent leur corps dans l'altérité pour justifier la violence et l'oppression. Donc j'en veux pour preuve, évidemment, les lynchages, puisque les suprémacistes blancs restaurent la hiérarchie raciale héritée de la période de l'esclavage par une violence qui vise d'abord les corps noirs, à la fois infériorisés et altérisés, c'est-à-dire racisés. Concrètement, ce sont les corps des hommes noirs qui sont exclus des bureaux de vote et qui se voient privés du droit de vote. Ce sont les corps noirs et blancs qui sont séparés par une stricte législation de ségrégation raciale à travers le pays. Et ce sont bien sûr des corps noirs qui sont victimes de lynchage en des proportions cataclysmiques dans le Sud, notamment en Alabama, précisément où travaille Booker T. Washington à l'époque. Et vous avez à l'écran eh bien, l'une de ces tragédies cauchemardesques pour la communauté africaine-américaine, l'assassinat de George Meadows en 1889, donc quelques années avant le discours que j'ai cité de Booker T. Washington. À noter évidemment que cette violence n'est pas simplement une violence physique qui s'exerce sur les corps, mais c'est également une violence symbolique, comme vous pouvez le voir ici à l'image, où vous avez toute une littérature pseudo-humoristique qui moque l'infériorité physique, notamment des Noirs, qui sont considérés à l'époque, on l'oublie trop souvent, comme inaptes au sport, puisque le sport est une activité censément aristocratique qui a été développée sur les campus des plus grandes universités britanniques et américaines. Et dans cette représentation de tennis que vous avez à l'écran, on voit bien que les Noirs sont trop stupide, trop peu discipliné, trop peu coordonné, sport aussi noble que le tennis. Ce genre de représentation fourmille dans l'espace public états-unien à la fin du 19e siècle et en réalité au moins jusqu'au milieu du 20e siècle. Donc on comprend donc que c'est l'infériorisation des corps identifiés comme noirs qui affaiblit, voire annule la portée de leurs paroles publiques. Autrement dit, avant même que des corps soient en mesure de s'exprimer dans l'espace légitime, c'est-à-dire dans l'espace majoritaire de la discussion publique, il est nécessaire d'être reconnu comme digne d'être écouté et digne d'être entendu. Et dans cette situation, Washington propose donc d'autres canaux d'action politique que l'argumentation, que la conversation, que la délibération rationnelle. Et parmi ces canaux, il propose une forme d'argumentation infra rationnel, qui s'appuierait sur les émotions et les affects produits par la performance corporelle de dignité des personnes noires. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ici, on a un vaste champ d'études qui s'ouvre devant nous, qui concerne à la fois les stratégies politiques des Africains et Américains relevant de l'hygiène, relevant de l'habillement, relevant de la cosmétique, je pense par exemple aussi aux concours de beauté, je pense au sport et à énormément d'autres pratiques corporelles de dignité. Ici à l'écran, vous avez des posters, des documents qui font la publicité de la National Negro Health Week, qui a précisément été fondée par Booker T. Washington l'année de sa mort en 1915. Donc vous voyez que Booker T. Washington, encore en 1931, figure sur le poster programmatique de cette semaine dédiée à la santé des personnes noires. Et vous voyez également à gauche que le sport, et particulièrement le sport féminin, est utilisé pour eh bien, créer des corps qui soient à la fois pleins de vitalité, mais aussi pleins de beauté, de masculinité ou de féminité, ici dans ce cas. Je prends par exemple... Pour pour preuve également, voilà, cette publicité pour la célèbre entreprise de cosmétiques qui a été fondée par Madame C.J. Walker et qui, dans les années 1920, eh bien, est devenue un empire de la cosmétique dont le slogan Glorifying Our Womanhood dit bien le but. Il faut glorifier la féminité des femmes noires qui ont été historiquement privées de toute, comment dire, possibilité d'incarner la beauté. Une femme noire, pour l'immense majorité des personnes blanches aux États-Unis, ne peut pas être belle. Et l'entreprise Walker, la Walker Company, se donne pour tâche de rendre belles des personnes qui ne pouvaient pas, d'après le discours dominant, être belles. Donc voilà deux exemples tout à fait caractéristiques de ces stratégies corporelles de dignité. Donc pour se faire entendre, Washington plaide pour une forme non verbale de prise de parole. Cette forme non verbale de prise de parole, qu'on pourrait aussi appeler infrapolitique, devait avant tout s'appuyer sur la tenue du corps, c'est-à-dire sur un ensemble de performances corporelles proclamant la dignité de ce corps et donc sa respectabilité et son égalité. Voilà, par exemple, un autre exemple de ce dont je parle, des publicités qui concernent l'habillement, notamment la façon dont les spectateurs du football classique, qui est le plus grand événement sportif de l'Amérique noire des années 20, doivent s'habiller pour y être spectateurs. Il faut à la fois avoir les chapeaux adéquats, mais également les manteaux adéquats, tout cela relevant d'une vaste entreprise de dignification, si l'on pourrait s'exprimer ainsi, de dignification de l'ensemble de la communauté. Hein, ce ne sont pas du tout des pratiques qui sont qui relèveraient de la diversion ou du divertissement, mais qui sont très, très profondes dans leur volonté de déclarer eh bien, la dignité et donc la citoyenneté des Noirs en vue de l'obtention de la justice. Donc, contre l'insulte publique qui vise leur corps, les Africains-Américains mettent en place des stratégies d'élévation corporelle, faisant de la virilité, faisant de la féminité et plus généralement de la vitalité, de la beauté du corps noir, des enjeux cruciaux de leur lutte de libération. Et puisque, en fait, le corps est la cible première de la stigmatisation et de l'exclusion, alors il est lucide, comme le dit Booker T. Washington, de faire du corps le support premier de l'action politique visant à combattre cette stigmatisation et cette exclusion. Les performances de dignité qu'évoque Washington devaient placer en leur centre l'élévation du corps pour affronter la spécificité corporelle du racisme visant les personnes identifiées comme noires. La performance corporelle attaque les racines corporelles du racisme. On peut le dire autrement. Si le corps noir est le lieu premier de l'ascription du racisme, il est alors également le lieu premier de la libération du racisme. Lieu premier de la construction de la différence raciale, le corps noir fut aussi le lieu premier de la déconstruction de cette différence. Et vous avez à l'écran ici Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin, qui dans cette histoire, eh bien, marque un tournant dans la mesure où au cœur même du Troisième Reich, au cœur même de l'Allemagne nazie, à quelques années de la Shoah, eh bien, devant des milliers de spectateurs, et non pas de téléspectateurs à l'époque, mais devant des milliers de spectateurs, il arrive à proclamer l'égalité, voire même la supériorité à certains égards du corps athlétique noir en remportant quatre médailles d'or devant ses concurrents. Donc, on voit bien que ce chemin vers nos droits dont parle Washington définit la stratégie qu'on appelle d'élévation de la race, c'est-à-dire non pas transformer d'abord les structures sociales, ce qui est un objectif qui est largement impensable en ces termes, les militants, mais aussi les scientifiques, les sociologues, les historiens n'ont pas encore les outils nécessaires pour penser en termes de structure sociale, mais l'objectif de la stratégie d'élévation de la race est de changer, de transformer la psychologie blanche grâce à la monstration, à la démonstration, mais aussi à la monstration de la respectabilité noire. L'objectif final, c'est eh bien d'arriver, disons, à cet idéal, l'idéal que vous voyez à l'écran, hein, the new Negro, le nouveau noir, si l'on peut dire, dans les années 20, c'est-à-dire pendant la Harlem Renaissance, pendant la New Negro Renaissance, comme on l'a aussi appelé, est un personnage qui ressemble évidemment au penseur de Rodin. Il est dans la même posture. Il pense, mais il est visiblement aussi extrêmement musculeux. Il allie à la fois l'intelligence et la force, l'athlétique, si l'on peut dire, et l'esthétique. Donc, il est un homme complet, et c'est cet idéal du New Negro dont parle l'élévation de la race. Donc Booker T. Washington et la communauté africaine-américaine lancent le combat sur le terrain symbolique de la reconnaissance pour changer la psychologie blanche, démontrer son égale dignité pour littéralement tenir la société blanche en respect et obtenir des droits égaux. C'est ce que Pierre Bourdieu, évidemment, appelait les luttes de classement, qui sont nécessairement liées aux luttes de classe. Les luttes symboliques et les luttes économiques sont liées entre elles. Les luttes pour la reconnaissance et les luttes pour la redistribution sont les deux faces, si l'on peut dire, d'une même médaille. Si cette lutte pour la reconnaissance est nécessaire après l'abolition de l'esclavage, c'est que l'inégalité raciale était pensée, à l'époque, non pas grâce au concept sociologique qui nous est commun aujourd'hui, le concept de racisme, qui n'existait pas autour de 1900, mais à l'aide du concept psychologique de préjugé racial. La plupart des Américains blancs considéraient la répulsion entre les races comme la conséquence d'un instinct naturel, inné et immuable, généré par leur inégalité physique, mais aussi leur inégalité intellectuelle et morale supposée. Alors c'est une position qui est inscrite dans le marbre par la Cour suprême des États-Unis en 1896, dans son célèbre arrêt Plessy versus Ferguson, qui affirme être impuissante à éradiquer les instincts raciaux. Fin de citation. La loi ne peut pas changer les mœurs, car les mœurs en termes de race sont inscrites dans des instincts, c'est-à-dire dans la biologie. En revanche, les Africains-Américains affirment au contraire que le préjugé racial est produit par l'environnement social, l'environnement politique, et donc est susceptible d'être modifié. Et c'est la raison pour laquelle Washington et les élites africaines-américaines, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, engagent le combat sur le terrain symbolique. Il s'agit de faire la preuve de la méconnaissance des Blancs en leur présentant une autre vérité, sur les Noirs. Autrement dit, les élites africaines-américaines ont lancé une lutte pour la reconnaissance afin d'éduquer le regard blanc en donnant à voir la dignité noire. Et encore une fois, les Africains-Américains ont appelé cette stratégie une stratégie politique d'élévation de la race, racial uplift. Donc on a un mouvement ascendant vers le haut, d'amélioration, de perfectionnement de soi-même. Et cette stratégie politique d'élévation a eu d'abord recours à des performances corporelles de dignité. Aujourd'hui, dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, et en fait depuis la période du Black Power, cette stratégie d'élévation de soi-même et de sa communauté, aussi appelée politique de respectabilité, est très critiquée. Elle est très critiquée comme étant une stratégie conservatrice, voire une stratégie réactionnaire, puisqu'elle entend réformer les Noirs pour mettre fin à l'oppression blanche. Elle fait donc peser sur les Noirs, eh bien, la charge de leur libération plutôt que sur la réforme de la société et de la communauté blanche. Je pense néanmoins que, même si ces critiques sont tout à fait fondées, on pourra y revenir, je pense que cette stratégie d'élévation de soi doit être prise très au sérieux pour ce qu'elle nous dit des revendications minoritaires dans l'espace démocratique. Parce qu'au tournant du XXe siècle, le recours à la performance sportive et plus généralement à la performance corporelle prend acte du fait que la construction d'un espace public vraiment démocratique ne peut pas alors simplement passer par l'argumentation rationnelle, c'est-à-dire par un échange d'arguments entre corps considérés comme égaux. Et pourtant, dans les œuvres classiques de la philosophie politique contemporaine, je pense notamment à Hannah Arendt, mais pas simplement, eh bien, dans ces œuvres classiques de la philosophie politique contemporaine, la démocratie est le plus souvent pensée selon la métaphore d'une conversation entre égaux dans ce que Hannah Arendt appelle un monde commun. Et c'est à partir de cette métaphore, la métaphore de la conversation, que, par exemple, John Rawls définit la position originelle. C'est à partir également de cette métaphore de la conversation que Jürgen Habermas eh bien, fonde son éthique de la discussion, ou encore Stanley Cavell, le philosophe américain, fonde sa conversation de la justice. Ces grandes œuvres de la philosophie politique et morale contemporaine qui influencent nos représentations de la démocratie, eh bien, postulent la possibilité d'une entente mutuelle entre les individus à la condition du respect de certaines procédures juridiques. L'un des problèmes de cette vision, quand on regarde l'histoire africaine-américaine, c'est précisément depuis l'abolition de l'esclavage et leur inclusion théorique dans la communauté citoyenne, les Africains-américains ont respecté à la lettre toutes les procédures formelles du jeu démocratique. Là, vous le voyez à l'image, vous avez ici le premier vote, c'est-à-dire la représentation, disons, de la première fois que la communauté africaine-américaine, alors évidemment que les hommes noirs, hein, en 1867, première fois que des hommes noirs vont voter, et vous voyez qu'ils sont dans cette file d'attente, tous extrêmement bien habillés, ils présentent toutes les preuves de respectabilité, de dignité, et on voit d'après leurs habits qu'ils représentent, disons, les grandes professions qui sont représentées dans la communauté africaine-américaine. Donc, voilà un exemple typique de respect des procédures formelles du jeu démocratique, non seulement dans l'acte de vote, mais aussi dans l'acte de présentation de soi-même sur la scène publique. Malgré tout, la voix des Africains-Américains est restée sans portée, émise par des corps considérés comme indignes d'être écoutés. Et ce point soulève la question, me semble-t-il, des conditions épistémologiques et politiques dans lesquelles les groupes sociaux sont reconnus et leurs paroles publiques entendues. Et de ce point de vue, il n'est pas du tout certain qu'il existe, comme l'appelle Hannah Arendt, un droit d'avoir des droits. Hein? Comme si, pour avoir le droit de voter, il fallait avoir le droit d'avoir le droit de voter, par exemple. Comme si aussi le droit pouvait se fonder lui-même dans une sorte de régression infinie. Il me semble au contraire que ce que montre l'histoire africaine-américaine, c'est que le fondement ultime du droit est situé en dehors de l'ordre juridique, sur un ensemble de pratiques corporelles, notamment, mais d'abord corporelles, de dignité, dont la reconnaissance doit d'une façon ou d'une autre être imposée aux autres pour se rendre efficace socialement. C'est ce que disait par exemple W.E.B. Du Bois, hein, quand il appelait à imposer la reconnaissance pour être classé comme humain. On n'est pas spontanément classé comme humain, il faut l'imposer aux autres. Et pour certaines communautés, pour certains groupes sociaux, cela passe par un majoritaire sur la minorité noire, la politique d'élévation de la race, qui s'appuie sur des pratiques corporelles de dignité, n'est pas naïve. Elle n'est pas non plus, me semble-t-il, conservatrice, ou en tout cas pas seulement conservatrice. Elle est avant tout lucide sur les conditions d'accès au pouvoir quand le recours à la violence armée est, pour une raison ou pour une autre, écarté. Ce qui est le cas, évidemment, pour les Africains-Américains à la fin du 19e siècle. Qui ne peuvent pas se lancer à nouveau dans un soulèvement massif, comme ça a été le cas pendant la guerre de sécession. Un recours massif aux armes pour les Africains-Américains est impossible après la guerre de sécession. Et donc, je terminerai cette présentation rapide par une question. À qui donc appartient l'espace démocratique? Le concept de performance corporelle de dignité peut, dans le cas de l'histoire africaine-américaine contemporaine, et peut-être aussi, et je vous soumets cette idée, peut-être aussi, selon des modalités diverses, être utile dans le cas des sociétés coloniales et des sociétés post-coloniales, que ce soit des Amériques ou d'Afrique ou encore d'ailleurs. Ce concept de performance corporelle de dignité pourrait nous aider à comprendre le fonctionnement et l'histoire de l'espace démocratique, et apporter de ce fait une piste féconde de réflexion aux sciences sociales. Voilà, je vous remercie.
Merci Nicolas, tu as tenu une demi-heure, c'est parfait. On va enchaîner avec la communication d'Aurélia Michel que je vais présenter rapidement, donc pendant une demi-heure, enfin elle pourra s'exprimer pendant une demi-heure également. Et ensuite, nous aurons donc une discussion avec Christine et Sarah sur les deux interventions. Alors Aurélia Michel, tu es historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Paris, au laboratoire SESMA. Tu es spécialiste du Mexique et du Brésil. Tu as contribué récemment au scénario du documentaire Les routes de l'esclavage qui a été diffusé sur Arte en 2018 et tu as publié encore plus récemment, c'était cette année, donc un ouvrage intitulé Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial qui est paru au Seuil donc voilà, cet été. Donc je te passe la parole immédiatement.
Bonjour et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très très contente de participer à cette journée parce que ça m'a permis justement de, avec cette proposition sur la dignité des corps et enfin ça va rebondir en grande partie sur la présentation précédente. Voilà, donc je reprends. Donc j'étais vraiment très intéressée par cette démarche et à l'écoute de Nicolas, je vois que beaucoup de points, enfin en tout cas je vais soulever en parallèle beaucoup de points similaires pour la situation du Brésil, donc que je vais évoquer avec vous. Alors, donc ça m'a obligée à saisir différemment ou à éclairer différemment un passage d'un travail que je suis en train de terminer. Qui est globalement, donc qui porte sur le Brésil, qui est globalement une interrogation sur la société post-esclavagiste brésilienne, avec l'observation des dynamiques démocratiques, d'une part, mais aussi de racialisation, puisque je pars du principe que la race apparaît quand l'esclavage disparaît, comme une réaction, en fait, face à la possible égalité avec l'affranchi, et que c'est justement dans cette séquence post-esclavagiste qu'elle se met en place. Alors, c'est pour ça que plus précisément, je m'intéresse à une séquence de cette sortie du système esclavagiste en observant deux grandes villes, Rio et São Paulo, entre les années 1920 et 1940. Deux villes qui accueillent une population importante venue de l'intérieur du pays, c'est-à-dire du monde de la plantation et d'une plantation tout à fait esclavagiste, même si l'esclavage a été aboli donc en 1888, la structure de production reste entièrement sur ce modèle, en tout cas pour une partie de la population. Cela dit, il y a une autre plantation, un autre système de plantation qui s'est ajouté à cette plantation esclavagiste, qui n'est pas foncièrement économiquement différente, mais qui a une particularité, c'est qu'elle ne fonctionne pas avec des affranchis, mais avec des colons européens qui ont migré massivement donc dans la région de São Paulo notamment et de Rio pour exploiter le café. Ça veut dire qu'il y a une importante société d'immigrés blancs dont le statut social est relativement proche en fait des affranchis. Mais avec une différence évidemment fondamentale qui est de ne pas appartenir à l'esclavage et donc d'être de ce fait plus légitimement considérés comme de possibles citoyens. Alors, ce qui se passe, c'est que au début des années 1910, 1920, disons, il y a une très importante migration vers les villes et donc il se passe ce qu'il se passe d'ailleurs dans beaucoup de villes américaines, du continent américain à cette époque, une sorte de melting pot atlantique. Des faubourgs populaires qui se constituent avec à la faveur d'une économie industrielle, d'une croissance urbaine, mais aussi la possibilité pour ces populations arrivées en ville d'accéder à certains services, notamment celui de l'école. Et donc, cette dynamique démographique concourt à de profonds changements politiques qui, au Brésil, se traduisent par la chute du régime. En 1930, la République est donc remplacée par un gouvernement qui va évoluer dans les années 30 vers une dictature populiste nationaliste qui est menée par Getúlio Vargas jusqu'en 1945. Et cette même période, donc des années 30, c'est aussi l'émergence d'une culture nationale brésilienne, dans laquelle les héritages africains sont en fait totalement centraux, enfin sont centraux. Et une des manifestations de cette révolution culturelle, c'est bien sûr la musique, enfin c'est la musique avec l'émergence de la samba, donc une musique à partir d'un rythme d'origine africaine avec des chants, des danses et de plus en plus une littérature puisqu'il y a des compositions qui sont liées à ces pratiques musicales. Et donc Rio est un des centres, le centre de cette émergence. Et c'est là que voilà, ce qui va m'occuper aujourd'hui surgit une sorte de mutation qui est aussi une révolution culturelle, un événement, on peut appeler ça un événement, au début des années 30, qui aura des conséquences très importantes pour la ville de Rio, c'est que la samba entre dans le carnaval de Rio. Il y a un carnaval qui est très important depuis le début du siècle. Et lorsque la samba investit, disons, ce carnaval, c'est-à-dire au moment de la création des écoles de samba, va se former très rapidement en quelques années, ce qui deviendra le fameux carnaval de Rio, qui aujourd'hui a une place considérable dans, non seulement dans les économies, mais dans la société brésilienne et dans la définition de son identité, non seulement à Rio, mais nationale. Alors, c'est ce basculement, en fait, que j'observe à partir de l'étude que je fais d'un quartier de Rio, le quartier de Madureira, dans la zone nord de Rio. Ce que j'ai observé d'abord, c'est que donc le carnaval, c'est depuis les années 10 une activité très importante de la société carioca, mais surtout, enfin, je veux dire, à tous les niveaux de la société, toutes les classes sociales, et notamment le plus important, le clou du carnaval, c'est le défilé dans l'avenue centrale des élites avec des chars qui mettent en scène justement les principales élites de la ville. Et dans toutes ces festivités, la participation des Noirs est perçue, et notamment par la presse qui se développe, comme tout à fait marginale, et marginale, voire dénigrée, puisque au moment de l'illustration donc, que je vous montre ici, on décrit dans un journal plutôt lu par les populations du centre, on va dire, que les attractions du carnaval de Rio sont diverses. La journaliste décrit toutes les activités dans tous les quartiers, des chars, des bals, des défilés. Toutes les classes sociales sont décrites. Et au passage, celle des Noirs, qui est à part, et qui se réunissent dans un quartier excentré, qui est la place 11, la place à 11, et qui est décrit par la journaliste comme, avec le terme de bagunça negroïde, ça veut dire désordre négroïde, désordre étant un mot poli pour traduire bagunça. En fait, ce qu'elle décrit, cette journaliste sans le savoir, c'est les premiers lieux de réunion de ces écoles de samba. Hein. C'est en 1930, 1931, 1932 qu'on a ces premiers défilés. Et petit à petit, ces activités de la presse à 11, ils vont prendre une place, disons, au sein de la presse, au sein de la presse officielle ou la presse dominante, on pourrait dire. On voit déjà ici, en 1937, une autre représentation du carnaval brésilien par le même journal, donc. Et cette fois, avec une description, donc parmi toutes les activités citées, il y a le carnaval du créole, concours des quartiers, des chars, de défilés dans la place à 11. Alors, il y a en effet donc un basculement culturel très important au cours de ces années, c'est assez rapide, et les écoles de samba donc ont conquis une place officielle et même reçu l'appui du gouvernement Vargas à la fin des années 30, l'appui de la municipalité, et c'est en fait ce soutien, ce revirement qui a soulevé de grandes questions qui polarisent le débat historiographique sur cette histoire des écoles de samba avec des questionnements qu'on va retrouver par rapport à l'intervention précédente. Il y a un historien qui a qualifié cette question de mystère samba en 2012 dans un livre qui porte ce titre, Hermano Vian, et qui en fait pose la question du caractère subversif, du caractère émancipateur de ce processus de représentation. Dans quelle mesure ce retournement culturel correspond à une démocratisation de la société brésilienne? Ce nouveau carnaval n'est-il pas justement une représentation uniquement symbolique qui n'engage aucun changement social profond et permet à la société brésilienne de conserver sa dualité fondamentale et donc ses schémas inégalitaires? Alors, notamment, des analyses pointent l'origine de cette contradiction dans la compromission qui aurait été presque, disons, congénitale des écoles de samba avec le pouvoir, qui aurait accepté en fait un pacte du diable avec le dictateur Vargas, celui-ci ayant pu s'appuyer sur la samba et le carnaval pour forger une représentation du métis national, alimenter aussi un mythe qui émerge dans ces années-là, qui est celui des trois races, indienne, européenne, africaine, et qui représenterait en fait une harmonie politique en réalité, harmonie sociale, la paix sociale, voilà. Et donc les leaders des écoles de Samba auraient collaboré avec ce régime et faisant avec lui, alimentant l'idéologie nationaliste. C'est vrai qu'il est légitime de s'étonner de la rapidité avec laquelle le carnaval a été, en quelques années, je dirais, j'utilise ce terme exprès, il a en quelque sorte, le défilé des écoles de la Place à 11 a phagocyté le défilé ou les défilés généraux de Rio. Et en à peine quelques années. Des écoles donc ont été montées, le défilé annuel des écoles a été très vite sacralisé. En 1934, les écoles de samba sont organisées en un syndicat qui est l'Union des écoles de samba, qui négocie tout de suite avec la mairie une représentation officielle, légale et reçoit des subventions, voire en cas dans 1943 se passe même de ce soutien, puisque interdit par la mairie, les écoles de samba vont organiser un défilé dans l'illégalité et donc attire en fait toute l'attention du public carioca. Donc, quel est cet événement et comment lui donner son sens? D'abord, l'événement en lui-même, ça reste un événement qui se connecte avec l'ensemble de l'Atlantique dans ces années, c'est-à-dire l'Atlantique noire, l'intégration des rythmiques africaines dans des pratiques de carnaval qui sont en fait héritées de l'Europe. Alors, pour ça, cet événement, il est daté, c'est 1929, lorsqu'un bloc de carnaval qui est formé par Manuel Loy Díaz, qui est un des fondateurs des écoles de samba, décide d'intégrer dans le défilé de son groupe carnavalesque le rythme de la samba. Donc, il y joint donc un orchestre de percussion, tambourin, boîte de conserve, sifflet, qui marque le rythme de la samba. Et donc, cette formule est immédiatement adoptée par d'autres groupes carnavalesque qui décide de se rencontrer place à 11 et de s'affronter dans un concours. En 1931, pardon, un journaliste sportif, parce qu'en fait ces blocs de carnaval étaient liés à des clubs, des associations sportives de quartier, donc il connaît la pratique de ces écoles, fait le patronage, disons, médiatique de ce défilé. Et c'est le journal O Globo, qui est le futur Globo, donc empire médiatique brésilien actuel, qui organise désormais ces défilés et lui donne une audience à l'échelle de la ville et bientôt nationale. Et donc en 1933, il y a déjà une bonne trentaine d'écoles qui défilent. 1934, donc je l'ai dit, l'Union des écoles de samba. Et pendant des années, les deux écoles qui vont toujours, qui vont s'affronter en tête, c'est-à-dire gagner le concours de défilé, c'est l'école de Portela et Prazer da Serrinha, qui sont toutes deux dans le quartier de Madureira. Les deux leaders de ces écoles, Paulo da Portela et Manuel Loy, sont deux habitants de Madureira, donc une banlieue de Rio. Et c'est ainsi que moi je l'ai analysé, c'est-à-dire comment le carnaval du quartier de Madureira a petit à petit fait la place et représenté, mis en scène le défilé des écoles de samba. Parce qu'il y avait effectivement d'autres attractions qui étaient bien plus importantes et le carnaval, c'était en fait dans la presse, dans les échos, dans la presse, dans la représentation, l'idéal plutôt des communautés suburbaines, donc de périphérie, blanches immigrées. Hein. C'est plutôt les immigrés portugais, italiens, espagnols qui avaient investi ce carnaval et avaient investi surtout sa représentation. Et donc, dès les années 10, dans ces quartiers de faubourgs populaires, se forment donc des blocs, des blocos, qui sont chargés toute l'année de préparer ces défilés et qui sont extrêmement importants pour les sociabilités en train de se former. Et depuis les années 20, en fait, dans le quartier de Madureira, il y avait déjà des blocos qui avaient intégré la samba dans leur pratique, dans leur réunion de rencontre. Et notamment, ce que vous voyez à l'écran, c'est le bloc des Baianinhas de Oswald Cruz, qui est un quartier de Matureira, et qui est formé par une femme qui s'appelle Esther, qui habite ce quartier, et Paolo de Benjamin, qui va devenir Paolo da Portela, organise, enfin fait partie de ce groupe. Alors lui, c'est un habitant du quartier qui a migré. Enfin, c'est typiquement, disons, il est né dans le centre de Rio, dans le port. Il a travaillé dès l'enfance comme livreur de marmites. Il est actuellement, enfin actuellement, à ce moment-là, ouvrier dans un petit atelier du centre de Rio. Et c'est vraiment les classes populaires, les plus populaires, disons, de la ville. Alors, ce bloc aux Abaïnas, il y en a tout un tas. Il y a une prolifération même le fait de ces années 20 et qui n'est justement pas du tout perçue par la presse. La presse de Rio parle au contraire d'un carnaval en dépérissement qui perdrait ses traditions, qui perdrait la force de ses activités traditionnelles, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'attractivité de la Plaza Onza, où se rencontrent en fait les populations noires et les populations les plus populaires, échappe à ce moment-là au regard de la presse. Et donc, en 1929, lorsque est mis en place le principe même des écoles de samba avec ce concours, le terme bagunça negroïde, c'est désordre négroïde, c'est comme ça que ces activités sont qualifiées. Alors que 3 ans plus tard, l'organisateur du concours, Mario Diaz, qui s'adresse à la municipalité et à la direction générale du tourisme, demande le soutien donc financier et juridique de la mairie et interpelle ainsi donc le maire de Rio, alors ça c'est en 1935, en disant les blocos, les écoles ou les groupes de carnaval sont les lieux où se produisent la véritable musique nationale, imprimant dans ses grandes lignes le caractère essentiel de la brasilité. Et il défend l'idée que cette culture nationale doit être reconnue, protégée et soutenue par les autorités, notamment contre les tentatives d'appropriation et d'exploitation. Alors, il fait allusion effectivement à une histoire de vol d'une samba qui a été enregistrée par une radio dans le centre-ville sans que son auteur et son interprète soient identifiés et reconnus et payés. Alors, dès 1935, il y a 28 groupes d'écoles de samba qui sont inscrits. Il y a 12 000 personnes participant à ces groupes qui obtiennent effectivement une subvention après ce discours. Et la même année, il y a un concours qui est lancé par un journal qui s'appelle Arou, à la rue, qui remet à la fin du carnaval un prix qui est le prix du citoyen samba, alors du grand citoyen samba. Et qui va consacrer les grands leaders du syndicat des écoles de samba, à commencer par Paolo da Portella, dont je vous ai parlé, et qui marque ainsi un tournant symbolique, qui est le passage du règne du roi Momo, qui était la figure du carnaval traditionnel, à l'établissement de la République, on pourrait dire, et celle du citoyen samba. Alors, entre autres conséquences, il y aura l'apparition justement de ces défilés des écoles dans la presse carioca, même si, comme vous le voyez à l'écran, pour le défilé de 1935, c'est quand même une jeune fille blanche qui est placée au centre de l'image. Et là, je vous résume, on n'a pas le temps de développer, mais les Noirs n'apparaissent pas dans la presse locale, dans la presse de la ville, à cette époque, sauf aux pages des faits divers lorsqu'ils sont criminels, sorciers, etc. Donc là, il y a aussi un événement, même si vous voyez que c'est difficile de mettre en scène totalement ces groupes qui sont constitués en grande majorité de Noirs. Alors, justement, pour Paulo da Portela, qui a été un des grands leaders de cette stratégie de représentation, il s'agit de faire partie d'un ensemble, il s'agit de s'imposer dans les dispositifs de représentation de cette société, qu'on pourrait dire société du spectacle, parce que le carnaval est extrêmement important dans la formation de ces sociabilités, prendre place dans le carnaval, dans l'espace urbain, donc dans la presse et par l'image. Or, prendre place, ça signifie une chose dans cette société urbaine démocratique, qui est en train de se démocratiser, ça veut dire s'y tenir à égalité. Et donc, on a parfois suggéré justement que Paolo da Portella avait, qui avait une manie justement des tenues correctes, hein, il exigeait que tous les membres de l'école portent cravate et chaussures, hein, il appelait ça pieds et cou occupés. Il avait aussi un entregent très important avec le monde blanc, avec le monde de la presse, avec le monde sportif, avec le monde culturel blanc, et clairement une obsession de la dignité, c'est ce qu'on dit de lui. Et donc, il n'aurait pas été tout à fait un défenseur de l'identité et de la cause des Noirs brésiliens. C'est une lecture évidemment militante, de très postérieure, et qui le soupçonne justement de se soumettre aux normes blanches en comparaison à d'autres leaders de samba qui avaient une approche un peu différente. Et en effet, comprenant parfaitement les enjeux de l'image, il prenait un soin particulier donc à cette respectabilité vestimentaire, de comportement, et notamment, il était très important que pour lui que des jeunes filles blanches défilent dans son école. Et donc, il prenait le soin d'aller les chercher chez elles, en demandant la permission de leurs parents, en les raccompagnant à leur domicile ensuite. Et donc, cette image n'est pas truquée. Il y avait bien des jeunes filles blanches qui participaient donc au défilé de l'école. Et en fait, il a utilisé tous les mécanismes de la représentation qui étaient effectivement dominés par des normes blanches à sa disposition, et avant tout la presse. Il disait d'ailleurs: toutes mes conquêtes, je les dois à la presse, ce pouvoir incomparable qui honore notre nationalité. Et en faisant cela, il se comportait en réalité comme un égal qui agissait dans sa société et non comme un noir qu'on lui aurait demandé d'être, c'est-à-dire agissant dans une autre société. Et je dirais aussi que se tenir à égalité a consisté à s'appuyer sur ce qui le rendait réellement égal. Paradoxalement, c'était bien justement son identité noire et son identité africaine brésilienne. Car en fait, être l'égal du blanc, c'était détenir, comme lui, quelque chose qui ne peut s'obtenir. Être blanc, si on peut le dire de cette manière, se sentir blanc dans cette société, se croire blanc dans la société post-esclavagiste, consiste précisément à savoir que la blancheur ne s'acquiert pas. On est blanc ou pas, les autres ne le sont pas et ne le seront jamais. À partir de là, on peut s'entendre avec tout le monde. Alors, reprendre le défilé du carnaval à partir des rythmes de samba, redéfinir les danses, les couleurs, célébrer les divinités qui traduisent une relation à l'Afrique et une expérience de l'esclavage, c'est non seulement s'approprier l'espace de la société, mais c'est en même temps présenter aux Blancs ce qu'ils ne peuvent obtenir. C'est-à-dire, c'est même la dernière chose qu'ils souhaitent en général, et c'est aussi pour cette même raison ce qui le fascine. Ici, le noir dit, tu ne peux pas être ce que je suis. Et il se fait l'égal du blanc. Alors, ce procédé, on peut en trouver un écho dans le principe du modernisme brésilien qui s'est appuyé sur l'idée, le paradigme de l'anthropophagie. J'y reviendrai pour conclure, si je déborde pas trop de mon temps. Voilà ce que propose Paulo da Portela en faisant défiler son école en 1939 pour la première fois. Alors, l'école de Portela est donc une des plus importantes, est devenue la plus importante école, qui gagne pratiquement tous les défilés, et qui, pour la première fois en 1939, Paolo invente, enfin met au point ce qui va être le standard en fait désormais du défilé de Rio, c'est-à-dire un thème de samba qui est aussi un texte, avec une organisation assez cadrée du défilé. Et donc c'est là-dessus que encore aujourd'hui les concours, enfin les écoles sont jugées pour le concours. Ça s'appelle donc le Samba Enredo. Et ce principe, donc de thématique, pour la première fois, Paulo da Portel a choisi la leçon de samba, ou même l'examen de samba, Teste ao Samba, qui est le thème de l'école, avec ses instituteurs, ses élèves, donc tout le monde est déguisé en référence à ce thème, avec ses exercices. Et en fait, il y a toute une mise en scène dans laquelle Paulo met le Brésil dans sa classe. Hein. C'est l'école de Portela qui gagne encore une fois ce concours. Et le journal Le Radical, qui est un important journal de la ville, consacre donc la victoire de Portela dans ce carnaval. Donc là, vous voyez qu'il y a une mise en scène, une image dans la presse qui a tout à fait changé. Et avec cette citation qui est très parlante, dans l'article, le journaliste note combien la prestation de Paolo a époustouflé, s'est démarquée, s'est détachée et a montré surtout que la samba est seulement ce que le Moro produit, c'est-à-dire la favela produit, c'est-à-dire les quartiers populaires noirs. Donc ça appartient, ça ne peut pas avoir une autre source. Alors donc, ça n'est pas tant Vargas qui se saisit de la samba pour donner de la chair et de la dynamique à sa propagande nationaliste, c'est au contraire donc Flavio Costa qui explique au maire de Rio que les écoles de samba dès 1935 impriment le caractère essentiel de la brasilité et qu'il ferait mieux d'attraper le train en marche en soutenant ces foyers où se cultive la véritable musique nationale. C'est pourquoi il ne peut être question d'acculturation ou d'authenticité dans le rapport des sambistes à la nation. C'est peut-être l'explication de ce malentendu, parce que pour les habitants de Madureira et pour les leaders de ces écoles, il ne s'agit pas seulement de mettre les trois races ou les trois cultures européennes, indiennes, africaines à côté pour qu'elles puissent vivre en harmonie, ou intriquées les unes dans les autres comme le seraient les couleurs d'une jolie aquarelle. Ça, c'est ce qui a été utilisé aussi comme pour évoquer la démocratie raciale brésilienne. Ça n'est pas non plus la prétention à unir deux cultures, l'une blanche, l'autre noire, qui signifierait au fond qu'elles existent bien distinctement dans la société brésilienne. Au contraire, il montre qu'il n'y a pas une culture noire, une culture blanche, il y a une culture qui est en train de s'élaborer dans cette ville de Rio, en ce moment précis de la migration urbaine, donc une culture commune, une culture nationale, sans doute, c'est la culture qu'ils construisent avec ce qu'ils ont à disposition. Et donc, plus qu'une manipulation du pouvoir, l'événement de la samba dans le carnaval brésilien est une victoire dans la bataille des représentations, pas simplement parce qu'elle réhabilite les Noirs et les rend visibles, comme le dit d'ailleurs la chanson Aquarelle du Brésil écrite à cette époque, mais parce que ces derniers sont eux-mêmes à l'initiative d'une nouvelle représentation dans laquelle ils ne sont pas assignés à des références précises qui seraient limitées à leur identité afro-brésilienne, mais ils sont faiseurs de normes. Anthropophages de la modernité, ce sont eux, cette fois, qui métissent.